Ce soir, nous avons la chance d'être à la Comédie Française, dans une salle de répétition, en compagnie de qui ? De Ivo Von Hoff. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec L'Enfer de Stromae.
Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est, beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer, ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité, mais faut bien se changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer, ces pensées qui me font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi.
Ça, c'est vous qui l'avez choisi, Stromae.
Oui.
Ça m'a étonné.
Pourquoi ? C'est une Belge. C'est un Belge.
Ah, alors, c'est Stromae, vrai. J'ai oublié la filière
oui,
belge.
On croit bien sûr que c'est en français parce qu'il est tellement bon ce qu'il fait. Mais c'est un Belge, mais c'est pas pour ça, bien sûr. Mais c'est un Belge que, quand je l'ai entendu, la musique de lui, il y a des années et des années, j'ai immédiatement dit ça, c'est un grand. Il parlait aussi dans cette chanson, il parle de soi-même, de ses expériences, mais aussi dans une manière très fragile. Dans cette chanson, il parle de ses combats avec ses démons, aussi ses pensées suicidaires, mais c'est aussi un grand, grand musicien.
C'est vrai. Et vous intéressez beaucoup à la musique, oui. À la musique du texte. Le tempo et l'accélération et le décrescendo des pièces de théâtre, que ça soit du classique ou du contemporain depuis longtemps, Ivo Von Hoff. Mais vous intéressez beaucoup à David Bowie, avec qui vous avez eu la chance de travailler dans les derniers mois de son existence.
Oui.
La musique a toujours constitué un accompagnement ou plutôt une réflexion approfondie sur vous-même?
C'est pas justement pour pour faire un spectacle plus beau, quelque chose. Non, non. Pour moi, la musique, c'est aussi un langage. Ou une langue, presque. Comme une langue d'un pays. C'est le pays de la musique qui m'intéresse. J'ai fait aussi beaucoup, beaucoup des opéras. Et on fait seulement des opéras quand on aime vraiment profondément la musique. Mais ce que raconte la musique. Et avec David Bowie, bien sûr, c'était plus compliqué que ça parce que c'était aussi mon idole quand j'étais jeune. Quand j'avais 15 ans, pour des différentes raisons, hein, parce que, bien sûr, il était dans la musique un aventurier. Chaque album, c'était quelque chose de nouveau. Un album qui était basé sur le soul, Young Americans, par exemple. Et après, il a fait quelque chose avec la musique électronique. C'était un caméléon, on peut dire. Et j'aimais ça quand on est jeune et on voit qu'un grand monsieur de la musique peut changer tellement, si facilement. Ça m'a inspiré beaucoup. Mais aussi, comme jeune homosexuel, c'était un petit peu avant la lettre hein, qu'il s'est dressé dans des robes de femmes. Il était très masculin, féminin en même temps. Le Me Too avant la lettre, on peut dire. Pour moi, c'était comme un exemple, un modèle pour moi. Parce que s'il peut s'exprimer tellement, alors pour moi, c'était aussi OK d'être homosexuel. Et la troisième chose est... Quand j'ai visité ses concerts à Bruxelles, Forêt Nationale, ça s'appelle, je me souviens maintenant, avec Station to Station, le concert a commencé avec un petit film de Louise Buñuel. Et c'était très intense, surréaliste, absurde, mais aussi violent. Alors c'était très bizarre que pour 10 000 personnes, un film expérimental de 15 minutes à jouer sans David Bowie sur scène, ça m'a choqué, mais choqué dans un bon sens. Oh, si ça c'est possible sur une scène, je veux être comme ça. Ça je veux. Bowie m'a aussi inspiré de devenir un metteur en scène. Je ne savais pas dans ce temps-là, bien sûr, mais ça m'a inspiré, je suis sûr.
Alors en tout cas, ce qui vous a peut-être inspiré chez David Bowie, c'est aussi le sens de la rupture, de la discontinuité, de la coupure comme élément structurel de votre scénographie, de votre dramaturgie, que vous montiez un Marguerite Duras ou que vous montiez un Shakespeare ou que vous montiez comme ces jours-ci de manière magnifique Molière qui commence son grand revival, eh bien à chaque fois c'est la musicalité dans son sens le plus sensuel. Est-ce que David Bowie, qui a électrisé votre adolescence, continue à le faire dans le sens où, pour moi, spectatrice de vos mises en scène depuis pas mal de temps, à chaque fois que je vais voir une mise en scène d'Ivo Von Hoff, à chaque fois je me dis, c'est comme un concert de rock quelque part. Il y a de l'énergie, il y a de la sexualité, il y a de la sensualité, il y a du désir.
Ça, c'est vrai. Well, j'espère que ça, c'est vrai, parce que pour moi, j'ai toujours dit, mes spectacles sont pas du spectacle du théâtre, mais des spectacles théâtre musical.
Vous avez fait aussi l'adaptation de West Side Story. Ça, c'était purement ça, c'est du purement, théâtre musical.
Oui.
Tandis aussi, que là, on parle de la musicalité de vos mises en scène.
Oui. Mais aussi, dans ce cas-là, par exemple, pour Tartuffe, j'ai travaillé avec Alexandre Desplat, deux Oscars, hein. Alors, c'est.
Deux Oscars pour la musique du
pour
film.
Pour la musique du film.
Vous allez encore chercher dans des sources extérieures à l'art de la mise en scène théâtrale. C'est ça qui est extraordinaire chez vous et ce depuis le début.
Dans ce cas-là, par exemple, dans Tartuffe, il y a seulement quelques minutes qu'il n'y a pas de son, pas de musique. Pour moi, c'est aussi de la musique. J'ai dit à Alexandre, et on a découvert qu'il y a une scène avec Madame Pernelle où tout à coup, il n'y a pas de musique et c'est un choc. Parce que quand il y a toujours de la musique ou du son, parce que c'est pas seulement de la musique, mais aussi des sons, le silence aussi est pour moi un son. Alors, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup de travailler sur la musique. Je travaille toujours dès le premier jour de la répétition avec de la musique pendant les répétitions. Toujours, toujours. Alors que ça devient aussi pour les acteurs un autre élément essentiel. Par exemple, hier, pendant les répétitions, tout à coup, Christophe Montanès m'a dit qu'il joue Tartuffe. Il faut, c'est la musique d'hier ou c'est changé? Non, j'ai dit, c'est changé. Alors aussi pour les acteurs, c'est comme si important comme le texte, comme la scénographie, comme les lumières, comme tout. C'est pas justement pour beautifier,
rendre beau, quoi.
Oui, ça m'intéresse pas du tout.
Et ça vous intéresse pas non plus, Ivo Vonov, d'être dans la contemporanéité de la création des œuvres. Par exemple, Tartuffe, en ce moment, c'est pas la musique de Lully que vous allez mettre sur le plateau.
Non.
Quand vous montez Shakespeare, c'est pas la musique du temps de Shakespeare que vous allez faire entendre
aux spectateurs. Non, le théâtre comme des narrations du passé, ça ne m'intéresse pas. J'ai toujours considéré aussi quand je fais des opéras comme des opéras de Wagner ou de Verdi, je considère ça toujours comme des œuvres contemporaines. L'histoire, on peut aller dans une librairie, on peut lire les livres, c'est partout. Parce que le théâtre, c'est un art qui est fait pour consommer avec beaucoup de personnes dans la salle, normalement. Dans ce temps-là, c'est devenu un petit peu difficile, mais c'est un art vraiment d'une communauté. C'est comme la religion, comme l'Église, un petit peu. À 8h30, ici, on est ensemble dans une salle pour regarder ce spectacle. Alors, ça, c'est quelque chose de rituel. Et ça, c'est pour moi important que le rituel doit confronter le public. On doit parler des thèmes et des soucis ou des espoirs, le désespoir d'aujourd'hui ou demain.
Le théâtre, c'est fait pour baisser la violence dans une communauté réelle qui se retrouve.
Non, mais je montre beaucoup de violence sur scène.
Je sais, mais peut-être mieux. On en a moins après.
Mais mes acteurs aussi, maintenant, pendant Tartuffe, quand j'ai dit comment je veux un scène comme ça ou ça, ou un combat ou ça, ils ont toujours dit, parce que je suis toujours un petit peu aussi un monsieur, d'où cette violence. Et mais je dis toujours que c'est mieux de faire ça ici dans le théâtre que à la maison ou dans la rue.
Et il y a beaucoup de violence.
Il y a de la violence dans tout être humain. C'est très humain d'être violent ou d'être jaloux ou d'être ou toutes les choses qui sont moches ou cruelles. On n'est pas si loin des animaux, hein? Pas si loin de ça. Pour moi, tout à fait, le théâtre, mais je crois aussi pour beaucoup de ces spectateurs, le théâtre est comme un catalyseur. C'est comme les Grecs ont dit, hein, il faut se purifier un petit peu. Et ça me purifie. Je ne suis pas beaucoup malade, peut-être par ça, parce que je fais du théâtre. Et j'essaie de faire un théâtre qui est très personnel, mais aussi très ouvert pour un grand public. Parce que ça m'intéresse. Ça ne m'intéresse pas pour faire des choses qui sont seulement intéressantes pour moi-même. Et c'est aussi pour les autres, parce que c'est une manière de vivre pour moi. De vivre dans cette vie et dans cette société.
Est-ce qu'il y a beaucoup de violence à l'intérieur de vous, Ivo Vonov?
Oui, bien sûr.
Parce que vous avez l'air très calme, très chic, très bon genre.
Oui, mais je peux aussi être pas très calme, mais je suis pas un homme violent. Oui, mais il y a de la violence dans moi, bien sûr. Et aussi dans mes pensées, dans les fantaisies, oui, bien sûr. Quand dans la rue, quelqu'un m'affronte, je ne dis rien. Je vais à l'autre côté de la rue. Je m'en vais.
Et comment ont réagi vos parents quand vous étiez très jeune et que vous avez su que vous étiez homosexuel? C'est à ce moment-là qu'ils vous ont enfermé dans un internat?
Non. L'internat, c'était déjà quand j'avais 11. C'était une école très bonne. J'ai vécu ma vie pour la première fois entre mon 11e et mon 7e année. J'ai vécu tout. La violence extrême, of course, bien sûr, des autres garçons, mais aussi le premier amour, des cœurs brisés, aussi toutes les choses. Aussi la mort, parce que mon ami, ça veut dire quelqu'un que je l'aimais beaucoup. Tout à coup, il était mort. Stupide accident avec sa bicyclette. Mais pour moi, je savais pas. Je sais après que j'étais pendant une année en deuil. J'ai parlé avec quelqu'un de ça, mais il ne pouvait pas m'aider. Alors, je sais maintenant vraiment ce que c'est être en deuil. On est totalement seul dans une solitude. Quand on essaye de t'aider, c'est pas possible. Et tout à coup, c'est parti. C'est fini. C'est fini, mais c'est toujours en moi.
Encore maintenant.
Oui, parce que maintenant,
la mort de cet ami.
Oui. Parce, oui, et c'était justement, j'avais 15 ans. Hein. On avait 15 ans.
Là, vous avez quel âge aujourd'hui?
63.
Et il est toujours à l'intérieur de vous,
oui.
Le souvenir de cet ami.
Pendant la pandémie, j'avais des archives et je voulais, nettoyer tout ça et des choses qui ne sont pas importantes.
On a beaucoup fait ça pendant la pandémie.
Oui. Mais j'ai trouvé un box et je savais que c'est là-dedans, mais mes notes et mes choses que j'ai dans ce temps-là que j'ai écrit. Et pour moi, c'était très dur. C'était un moment très dur. J'ai immédiatement
fermé la boîte.
Fermé la boîte, oui.
Mais c'est incroyable parce que même si vous avez 60 ans, vous avez fait beaucoup, beaucoup de mise en scène. Vous travaillez maintenant dans le monde entier. Vous êtes très demandé. Vous avez abordé de nombreux répertoires ultra contemporains comme ultra classiques. Tartuffe en ce moment même à la Comédie Française, mais bien d'autres. Mais on a l'impression que finalement, chaque pièce que vous faites, même si c'est signé Molière ou Shakespeare ou un autre auteur d'opéra, parce que vous faites aussi d'opéra, on a l'impression que c'est une mise en scène, on sait que c'est de Ivo Von Hoff. Il y a la signature Ivo Von Hoff, alors que vous êtes un metteur en scène très déterminé à ne pas malmener le texte. Alors, comment sait-on que c'est vous? Et est-ce qu'un jour, vous allez écrire un texte que vous allez mettre en scène?
Non, mais j'ai fait ça, j'ai commencé comme ça. Mais
ah, mais on n'a pas vu, nous.
Non, bien sûr, c'est bon. Mes deux premiers spectacles, c'était des textes, des textes très courts qui étaient la base pour le spectacle.
C'était un peu autobiographique, tout le début de votre travail.
Oui, mais j'ai découvert après. Le premier, mon frère, il a deux années après moi. Alors, j'étais toujours avec lui, mais tout à coup, il est devenu, on ne sait pas pourquoi, bipolaire. Alors, maintenant, il est dans je ne l'ai vu il y a des années maintenant, parce qu'il est dans une, comment on dit ça, dans un institut. Et le premier texte, c'était, j'ai écrit sur un jeune homme, c'était le rôle principal qui ne parle pas, il dit rien, pas un mot. Il est traité par des professeurs et des docteurs, mais je ne savais pas que ça se parlait de mon frère. Maintenant, je suis très conscient de ça, que c'était une pièce sur lui.
Oui, mais vous avez abandonné la veine autobiographique. C'est peut-être dommage, vous allez peut-être y revenir maintenant.
Je ne sais pas, non, je ne suis pas un grand écrivain. Quand j'ai découvert, après j'ai mis en scène Marguerite Duras, Agatha, que j'aime beaucoup, ce texte, des choses comme ça. Pour moi, j'ai découvert que je peux être plus personnel par des textes de Shakespeare ou de Marguerite Duras ou des autres, de Molière, que mon théâtre devient plus personnel, je crois.
Alors comment et pourquoi?
Je ne sais pas, j'ai besoin de cette distance. Ça, ce n'est pas moi, mais c'est moi. J'ai découvert ça quand j'avais 25 ans. Parce qu'au début, j'ai fait des spectacles où le texte n'était pas important. Pas vraiment important. Et ça a devenu parce que j'ai travaillé avec des étudiants à Anvers et j'avais 15 étudiants pour devenir acteur. Et alors je me dis mais je peux pas faire un projet que je fais normalement. Alors j'ai choisi Troilus et Cressida, William Shakespeare, très compliqué, pièce très compliquée. Mais ok, j'ai choisi ça. Et alors j'ai découvert une liberté énorme en moi. C'est la même chose avec l'opéra, parce qu'à l'opéra, beaucoup de metteurs en scène n'aiment pas faire de l'opéra, parce qu'il faut accepter que quand on fait un opéra, qu'il y a un metteur en scène avant vous, avant tout. Et ça, c'est le compositeur. Il a fait des choix, déjà. Alors, peut-être, quand on dit « je t'aime », dans le théâtre, je peux dire « moi, je t'aime ».« Je t'aime ». On peut dire, mais à l'opéra, c'est indiqué forte, mezzo forte, piano. Alors, il faut pas, quand c'est écrit comme piano, il faut chuchoter. Et dans le théâtre, ça semble, il y a beaucoup de liberté, mais moi, j'ai découvert que dans cette, d'avoir moindre choix, moins de choix, ça me donne beaucoup de liberté.
Mais c'est la contrainte qui est créatrice chez vous.
Exactement, c'est ça.
Comme dans certaines écoles littéraires, comme l'ouvroir de littérature potentielle qui a existé dans les années 50, où c'était la contrainte qui permettait la créativité.
Oui, je crois.
Au fond, Ivo Ovonov, vous êtes un visiteur de fantômes, parce que vous allez vers les plus grands auteurs du théâtre et de l'histoire du théâtre. Ce qui vous intéresse, c'est pas tant de restituer leur vérité au moment où ils ont créé, c'est de nous transmettre leur contemporanéité et leur esprit extrêmement vivant et excitant aujourd'hui.
Exactement. Ça, c'est mon défi toujours. Ça, c'est mon ambition toujours.
Alors, je vous propose d'écouter une archive sonore, hélas, tragique. C'était le 11 septembre 2001. On se souvient toutes et tous de ce qu'on faisait le 11 septembre 2001, l'attentat du World Trade Center à New York. C'est une archive de France 3 avec Stéphanie Pérez.
8h56, une banale intervention dans les rues de New York, quand soudain, un grondement s'ouvre. Ce pompier y prête à peine attention et pourtant... L'impensable vient d'arriver. Un avion transformé en bombe volante vient de fondre sur la première tour du World Trade Center. Le cauchemar vient seulement de commencer. 18 minutes plus tard, la deuxième des tours jumelles explose à son tour. Dans les bureaux avoisinants, l'incrédulité, puis la panique et les larmes. Et ce n'est pas fini. Une heure après, les deux tours de 290 000 tonnes chacune s'effondrent comme de vulgaires châteaux de cartes. Le quartier est enseveli sous des tonnes de poussière. En fin de soirée, un troisième building, voisin des Twin Towers, s'effondre à son tour sous le contre-coup. Image saisissante, digne de l'un de ces films de science-fiction dont raffolent les Américains. Mais hier à New York, il ne s'agissait pas de cinéma.
Je vous ai proposé d'écouter cette archive du 11 septembre 2001, Ivo Ovonov, parce que je crois savoir que cette tragédie, à laquelle nous pensons encore aujourd'hui, elle a été décisive dans votre travail de metteur en scène et peut-être de décision aussi chez vous de vous atteler à l'œuvre de Shakespeare.
Oui, c'est vrai. 9-11, pas immédiatement. Mais après quelques temps, un, deux années, a changé mes choix dans le théâtre. Avant ça, dans les années 80 et 90, je faisais un théâtre sur les mariages, sur des relations très intimes. Plutôt, c'est des relations familiales. Après ça, j'étais beaucoup plus conscient de ce qui se passe dans le monde, et parce que c'était a break.
Oui, une coupure, un effondrement.
Une rupture énorme dans le monde. Le monde a changé dès le jour des attaques. Et aussi, tout à coup, la place de la religion était de nouveau claire, qu'on ne peut pas pousser la religion dans la marginalité. Aussi, quand les gens ne vont pas à l'église, on peut être religieux. Et qu'on pousse la religion à côté, ça donne aussi l'énergie à des individus, mais aussi des groupes qui veulent utiliser, mais pour eux, c'est pas utiliser, hein. Alors, parce qu'ils sont, pour eux, c'est vrai, hein. Ils vont nous tuer, ils voulaient nous tuer. C'était pour moi la quatrième guerre mondiale, hein, la troisième guerre mondiale, il faut dire. Et la guerre est là pendant 20 ans. Et ça ne va pas passer, je crois, très vite. Et ça a changé tous mes intérêts aussi dans le théâtre. Alors après, par exemple, j'ai fait un grand spectacle, c'était Anvers, l'opéra Le Ring, des Nibelungen. Pour moi, c'était un grand projet social aussi la tragédie romaine en 2007. C'était pour moi un grand spectacle sur la politique et sur qu'est-ce que ça signifie, la politique, pour la société, aussi pour les êtres humains individuels. Alors, ça a changé mes choix.
Ça a changé vos choix radicalement, ça a changé aussi la place du spectateur à l'intérieur de votre définition de la mise en scène de théâtre, parce que vous nous avez introduit dans le ring, si j'ose dire. Oui. Je me souviens de cette mise en scène de Shakespeare, qui a eu d'ailleurs un énorme succès au Festival d'Avignon il y a quelques années, où nous, les spectateurs, on était des protagonistes. Et c'est
le
ça...
peuple.
On était le peuple. On était le peuple. On
J'ai
revient.
J'ai coupé toutes les scènes avec le peuple de Shakespeare.
Et c'est nous les spectateurs,
qui sont devenus le peuple.
Oui, mais au-delà de cette introduction des spectateurs sur le plateau autrefois sacralisé du théâtre, il y avait aussi peut-être chez vous, Ivo Vonov, le fait que on partage avec les comédiens. On est presque à égalité avec les comédiens. Shakespeare, il faisait un théâtre, entre guillemets, public et populaire. On pouvait manger, on pouvait siffler, on pouvait s'embrasser pendant que le théâtre continuait son cours. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de très populaire dans votre manière de faire du théâtre?
Oui, mais quand je vous entends, j'étais jeune adulte, dans les années 80, hein, 70. Alors, dans les années 70, j'ai découvert pour la première fois comme un vrai choc dans ma vie le performance art. Dans le performance art, c'est toujours, on est mélangé avec les artistes. Et les artistes sont là, et quand on fait quelque chose, c'est toujours vrai. C'est la réalité, hein, vraiment. Alors, le fait qu'on mélange, on aime mélanger le public avec les acteurs et avec le spectacle, ça vient de ces expériences que j'avais quand j'étais très jeune. Et aussi, il y a toujours, dans chaque spectacle, il y a toujours un moment où l'acteur doit faire quelque chose qui est seulement vrai, qu'on ne peut pas jouer, on peut dire, qu'il est seulement vrai. Comme boire un verre, bien sûr que c'est aussi une petite performance, mais pas ça, bien sûr, mais quelque chose de plus grand. Et alors, pour moi, c'est la même chose avec le public. On ne fait pas toujours, mais on fait ça beaucoup. Et l'autre chose, c'est que j'aime beaucoup de travailler dans des théâtres traditionnels, mais je veux les utiliser comme les espaces. Pas comme il faut être là, sur scène, on joue, et parce qu'un théâtre comme la Comédie Française, c'est vraiment un théâtre du 19e siècle, 18e siècle. Alors, le rôle principal, c'était au centre, les rôles du deuxième rang, un petit peu plus derrière, oui. Alors, ça, j'aime pas du tout. Hein. Je veux briser les frontières de l'espace du théâtre. C'est pour ça que j'aime beaucoup de jouer aussi une scène en dehors. Hein, je ne fais pas dans le Tartuffe, mais je fais ça avec les damnés. Hein, j'aime beaucoup briser les limites et les frontières.
Oui, l'extérieur et l'intérieur
confondent. Oui. Il faut être clair que pour moi, le théâtre, c'est aussi sur la société en dehors. Et la société en dehors.
Pour tous ceux qui ne peuvent pas venir au théâtre aussi.
Oui.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Ivo Vonov pour notre plus grand bonheur, John Lennon.
Yeah!
On va continuer sur vos goûts musicaux. John Lennon, vous le connaissez ? Comme David Bowie ?
Non. Non. Non, c'était trop jeune pour ça. Non, mais ce chanson, bon,
c'est
mais
magnifique.
Sa voix est vraiment, c'est du théâtre du haut niveau, hein,
ouais.
Et d'une sincérité et d'une cruauté et d'une, mais aussi d'un désir énorme. Quand j'ai entendu ça, j'étais totalement silencieux pendant des minutes. Alors c'est tellement fort, c'est vraiment chanté du cœur. C'est un petit peu, j'ai aussi entendu quand David Bowie a chanté dans le studio, il y a aussi un recording sans musique, seulement sa voix. On peut entendre qu'il chante avec toutes ses forces, parce qu'elle était très malade. Et comme ça, on entend, c'est coupé, bien sûr, dans la chanson après, mais c'était, et aussi pour John Lennon, c'est comme un primal scream. C'est pas en français.
Hein? Un cri primaire.
Un cri primaire. C'est ça. C'est un cri primaire pour la manque de sa mère, la manque de son père, et aussi les fautes qu'elle a fait lui-même. C'est fantastique.
Question de midinette et je m'en excuse. Comment avez-vous réagi quand sur votre portable, quand vous avez décroché, qu'on vous a appelé, c'était David Bowie qui voulait travailler avec vous.
Non, ça n'est pas passé comme ça. Non. Mais c'est une histoire bizarre parce que j'ai rencontré un producteur en Angleterre parce que j'ai fait un spectacle qui a fait beaucoup de bruit et je l'ai rencontré. Son nom était Robert Fox. Et il, je savais pas, il m'a envoyé un mail. Il m'a très court. Est-ce que tu es intéressé dans un projet avec David Bowie? Je sais plus que ça, mais David Bowie veut te rencontrer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai pensé que c'était une blague d'un de mes acteurs. Alors, normalement, je réponds immédiatement au mail, mais j'ai pas fait. Et après 2 jours, j'ai pensé, mais s'il est vrai, si c'est vrai ce message, alors j'ai pensé, je vais l'appeler. Robert Fox, pas envoyer un petit mail, mais je vais l'appeler. Je l'ai appelé et Robert Fox dit, alors Ivo, oui, et, mais est-ce que c'est vrai, Robert? Il dit, oui. C'était après 3 semaines, j'étais dans son bureau à New York avec Bowie himself. C'était effrayant. Oui, mais c'était quand j'étais là, il était tellement calme et je suis entré. Il a dit, je sais tout de toi, il m'a dit. Et c'était vrai. Il s'est recherché énormément. C'était fabuleux. J'étais très calme. Mais dans l'avion, ça dure 8 heures de faire le vol. Je me dis 10 fois, 1000 fois, il ne cherche pas un groupie, mais un metteur en scène. Alors, il faut se comporter comme un collaborateur. Alors, moi j'ai fait. Et il a toujours apprécié ça dans moi. Je crois que je suis sincère. Parce que je ne savais pas ce que c'était quoi. C'était alors un musical. Ben, on avait seulement une première version. Alors, j'ai dit, après, on m'a lu ces versions. Il m'a demandé qu'est-ce que tu penses. Et j'ai dit, ouais. Il manque ça, c'est bien, mais ça, c'est pas bien du tout. Et il faut aussi écrire 3 numéros en plus. Et il était un petit peu ça. Mais je sais qu'il a apprécié ça. Que j'étais très sincère. Et David Bowie n'a jamais utilisé son pouvoir. Parce que aussi, il voulait avoir une autre chanson pour la fin. Et je ne connaissais pas cette chanson. C'était le seul album que j'ai jamais acheté. Alors, mais j'ai immédiatement dit, David, ça c'est le seul album que je connais pas. Alors, il m'a envoyé tout ça. Et alors, j'ai entendu la chanson pendant 3 jours dans un loop. Je l'ai écrit un mail. Si on utilise Heroes, parce que ça c'était l'autre. Ça veut dire ça, ça et ça. Si on utilise l'autre chanson, ça veut dire ça, ça et ça. Et on va nous manquer ça, ça et ça. j'ai jamais entendu quelque chose. Alors j'étais très, j'ai appelé Robert, David n'a pas répondu. Ça veut dire que il est en crise ou il est furieux ou c'est quoi? Non, il a accepté. C'était comme ça. Il n'a jamais utilisé. Moi, je décide, c'est mon projet. Il pourrait faire ça. C'est mon projet. Je veux cette chanson. C'est ça. Il n'a jamais fait ça. C'était une leçon pour moi.
Une leçon d'existence, mais le théâtre, oui, c'est une manière de vivre.
Oui, et aussi de collaborer. Tu entres en théâtre, il faut. C'est signer un contrat de collaboration.
Oui, sauf que quand on est metteur en scène aujourd'hui, et ce, depuis une bonne quarantaine d'années, le roi du plateau, c'est quand même le metteur en scène. C'est celui qui décide de tout.
Oui, mais le roi de ce projet était aussi David Bowie.
Oui, mais quand vous signez vos mises en scène, c'est vous le roi.
Mais il ne faut pas utiliser ce pouvoir. Ça, ce n'est pas bon.
Pourquoi ce n'est pas bon? Parce qu'en fait, les idées, elles viennent... de la possibilité pour les comédiens d'incarner un personnage, des mouvements entre les comédiens, de ce qui se passe sur le plateau.
Et aussi parfois des idées sur la mise en scène. Il faut être toujours ouverte jusqu'à la fin. Et ça, c'est dur pour un metteur en scène. Les deux dernières semaines, parce que alors on veut que c'est fini. Et j'ai découvert que c'est très dur, mais c'est très important, et ça améliore toujours le spectacle qu'on reste ouverte d'entendre tout, de voir tout et d'accepter les critiques. Aussi, quand les critiques n'est pas positives mais négatives, il faut le faire. Le spectacle devient mieux de ça.
Donc la modestie, l'humilité, le regard, la mise en cause permanente jusqu'au dernier instant constituent pour vous, Ivo Ivanov,
une énergie positive.
Ça veut dire que tout n'est pas encore figé.
Non, maintenant je pense que c'est figé. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe ce soir. On joue avec public. Alors ça change. Comment il faut réagir? Peut-être que ça change, je ne sais pas.
Mais ça va vous faire changer peut-être des petites choses dans votre mise en scène.
Oui.
Oui.
Oui, mais
vous serez là caché au milieu du public.
Un exemple, mais ça c'est extrême. J'ai coupé avec Kings of War, un autre grand projet de Shakespeare, quand j'ai coupé 3/4 d'heure le jour avant la première. Bon, mes acteurs étaient furieux, bien sûr, mais c'était, après, ils ont dit que c'était beaucoup mieux. 3/4 d'heure.
Donc le retrait, soustraction, c'est mieux que l'ajout le respect total.
Pourquoi quand on sait que c'est mieux de couper quelque chose, on dit, alors on fait ça après la première? Non, la première c'est juste notre jour, pour moi.
Ben, c'est pas moi en tant que spectatrice qui va me plaindre qu'un spectacle est plus court, que quelquefois les spectacles sont trop longs, sauf quand ils sont sublimes, mais vous avez eu la possibilité de monter des grands cycles où on partait pendant des heures sans même s'apercevoir que le temps passait, et au bout de 6-7 heures, je pense notamment au cycle sur Shakespeare, mais même les damnés qui vous ont permis de tourner dans le monde entier d'après l'adaptation du film de Visconti, on se rendait pas compte du temps. Donc le théâtre, c'est aussi la suspension du temps.
Oui, c'est vrai. Le théâtre.
Le théâtre, c'est aussi, je crois, à l'intérieur de votre approche du théâtre, Ivo Ivanov, c'est aussi le fait qu'on est toujours en train de faire du théâtre, même quand on ne va pas au théâtre.
On joue chaque jour, oui, c'est vrai.
D'ailleurs, je pense que l'internat dans lequel vous avez vécu quand vous étiez adolescent était déjà un théâtre. Et que dans vos mises en scène... Eh bien, souvent, quand on va s'asseoir dans une salle où un de vos spectacles va commencer, je me souviens, je crois, de Fountainhead, il y a quelques années, mais déjà, les comédiens sont en train de jouer.
Oui.
Et on a l'impression, nous, spectateurs, qu'on arrive en retard. Mais non, c'est qu'eux ont déjà commencé. Alors, est-ce qu'ils ont un temps d'avance, ou est-ce que c'est nous qui sommes toujours en retard par rapport au fait que nous ne savons pas que nous faisons toujours théâtre?
C'est pour moi un autre moyen, on peut dire, pour ouvrir le théâtre, que ce n'est pas quelque chose qui commence à 8 heures et ça, c'est la vie, et oui, c'est comme ça. C'est aussi l'influence du performance art pour moi. C'est la même chose. Pas de limites, pas de frontières brisées, ça, tout ça. Aller en dehors des limites. Alors, en dehors des théâtres, en dehors du temps, en dehors tout.
Je voudrais vous faire écouter une musique qui nous a beaucoup marqué. C'est celle de Massive Attack, qui à un moment a ponctué l'admirable mise en scène de Patrice Chéreau, oui, pour La Solitude des Champs de Coton, d'après Bernard-Marie, oui, Coltès, avec
j'ai vu six,
Pascal Grégoire.
You sure you wanna be with me? I've nothing to give. Don't lie and say this love is best. Don't leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live in a lean-to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. Though it sort of cools my temper. It never cools my temper. Walking through the suburbs, they're not exactly lovers, you're a couple. Especially when your body's double duplicate, and then you wait for the next Kuwait. Karma coma.
Vous avez vu ce spectacle 8 fois?
Oui, dans chaque version.
Vous avez suivi le spectacle, parce que là, il se passait quelque chose.
Mais pour moi, je ne suis pas un bon professeur, mais ce spectacle a tout qu'un metteur en scène doit faire. Et doit savoir. Tout est là. Avec seulement deux acteurs, la lumière, le son, la danse au milieu de ce spectacle, tout est là. Il ne faut pas savoir plus que ça, je crois.
À chaque fois qu'on voit une mise en scène de Molière, et j'avais vu celle que vous aviez faite au Théâtre Berthier à Paris-Odéon, oui, mais aussi à la Schaubühne de Berlin, vous avez décidé de le monter de manière ultra contemporaine, ultra trash, diront quelques détracteurs. Moi, je trouve que c'est très très bien. Alors, en dehors de la ruse, en dehors de la beauté de la langue, en dehors des stratégies qu'il déploie sur les plateaux de théâtre, Molière, c'est quand même celui qui a donné sa vie au théâtre et qui, oui, est mort sur un, oui, plateau de théâtre. Qu'est-ce qu'on peut en retirer en 22 de Molière, selon vous, Yves Ovanov?
Molière, c'est un cas spécial parce qu'il est très connu en France et c'est un nom connu dans le monde, mais on ne joue pas. On ne joue pas de Molière en dehors de France, de la France. Il faut être sincère sur ça.
Ça nous rabat un peu notre caquet, c'est bien.
Et si on joue quelque chose, c'est toujours Tartuffe. Mais pas dans la version que nous faisons ici.
Celle en trois actes.
Oui, on joue ça en trois actes. Molière, c'est bien sûr un des grands auteurs dans le monde pour moi. Il est capable, comme Shakespeare, comme Tchekhov, de parler de quelque chose qui lui est très proche, qu'il connaissait très bien, la vie familiale, parce que la masque de Molière, c'est toujours la vie familiale. Mais ça parle pour moi, ça, pas seulement sur la vie familiale, ça parle de la société. Et de la société dans son temps, bien sûr, mais comme tous les grands, c'est possible, Molière, quand on relit Molière maintenant, ou il y a 20 ans, ou dans 20 ans, ça va toujours changer. On ne peut avoir d'autres idées. Et bien sûr, l'autre masque, c'était la comédie. Et moi, je crois, dans toute, dans toute une bonne comédie, il y a toujours un âme noire. Et il faut découvrir l'âme noire. Et c'est pour ça que je crois qu'il est très important, parce qu'il a écrit des drames sociaux qui parlent de la société, des thèmes qui sont importants dans la société, dans son temps. Par exemple, dans son temps, on avait une immigration très particulière. C'était une immigration de la campagne à la ville. Ça a bouleversé tout l'équilibre dans la France. Alors, c'est la même chose aujourd'hui quand on a des immigrations de l'Afrique ou des autres. Ça aussi bouleverse notre société. Il faut réfléchir de nouveau comment organiser notre société. Et la loi, le plus important, c'est où est la place de la position de la religion et de toutes ces choses comme ça. Et ce que j'aime beaucoup, ces personnages sur scène sont toujours très, on les connaît. Et c'est toujours un père, un mère, un grand-mère, un fils, fille, des choses comme ça. Il y a un mariage interdit, ou des choses comme ça. C'est toujours quelque chose de très normale, quotidienne. Mais quand on fait ça bien, ça parle de beaucoup plus de ça.
Ben merci beaucoup Ivo Venov. Je rappelle que Tartuffe, ça commence à la Comédie Française et ça va durer tout le printemps pour notre plus grand bonheur. Et on n'a même pas eu le temps de parler de votre recréation à l'opéra de Don Giovanni de Mozart, que je vais aller revoir tellement elle est excitante.
Merci.
Et c'est avec Lazarus de David Bowie que nous allons nous quitter ce soir. Lazarus auquel a collaboré Ivo Venov. Je rappelle, Ivo, que votre pièce, Le Tartuffe ou l'Hypocrisie, se joue en ce moment même à la Comédie Française et ce jusqu'au 20 avril. Et que vous avez aussi une reprise à l'Opéra Bastille, le magnifique Don Giovanni de Mozart, qui commencera le 1er février jusqu'au 11 mars. Merci à Olivia Branger qui était à la régie technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Céline Villegas, Marie Mougin, Marie Clément. Et merci à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission.